L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère avec toujours en cette 9e saison les invités du LEM, la première partie qu'on peut aussi réécouter le lendemain à 8h30. Aujourd'hui, on retrouve le cycle qu'on a lancé il y a un mois avec un partenaire qu'on a déjà fréquenté plusieurs fois, l'association Les Petits Débrouillards Bretagne. Les Petits Débrouillards font de la vulgarisation des sciences, de la médiation des sciences et des techniques. Il est question de ça dans cette série d'émissions. Autour de l'adaptation au changement climatique. S'adapter, ça veut dire qu'on prend acte du fait que le climat change, ça a déjà commencé, on s'efforce de limiter le changement certes, mais on est déjà contraint aussi de faire avec, et c'est ça qu'on va explorer concrètement, comment adapter son logement, son alimentation, son quotidien, avec des professionnels, des scientifiques, différentes actrices et différents acteurs. Aujourd'hui, on met les mains dans la terre avec Alexis Rau, qui est agriculteur maraîcher urbain dans le quartier de Kermoisan à Quimper. C'est la ferme de la Cascade dont on vous a déjà parlé sur cette antenne, vous pouvez réécouter ça sur notre site internet. Et pour représenter Les Petits Débrouillards, c'est Geneviève Canivin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Parce qu'on se dit Les Petits Débrouillards ne sont pas vraiment portés sur l'agriculture à la base, Geneviève.
Ah, alors Les Petits Débrouillards, on est portés sur les sciences. Et en fait, les sciences, c'est une méthode. Donc ça veut dire qu'on peut regarder absolument tout avec, y compris l'agriculture, évidemment. Donc, au niveau des trois axes principaux qu'on a à l'échelle nationale, on va dire, on a transition écologique et sociale. Et donc, nécessairement, on s'intéresse beaucoup à l'agriculture et en relation, pour beaucoup également, avec le changement climatique, parce que ça va énormément agir sur ces aspects-là. Donc oui, on travaille là-dessus, on se pose beaucoup de questions, on va chercher les réponses évidemment au niveau de la recherche, mais aussi auprès des gens qu'on rencontre autour de nous. Et par exemple, Alexis, avec qui on a commencé à travailler depuis le printemps dernier en fait.
C'est ça, ça fait déjà un moment.
Ouais. Je peux peut-être raconter comment on s'est rencontrés.
Vous étiez croisés dans la rue.
Vas-y.
En fait, on s'était rencontrés à l'occasion d'une instance qui s'appelle le contrat de ville, où on nous a présenté le maraîcher qui allait prendre la ferme de la Cascade dans le cadre du projet Quartier Fertile. Puis il commençait à expliquer ce qu'il allait faire. J'ai dit, oh, lui, il faut que j'aille lui parler.
C'est ça, tout à fait.
Donc je lui suis tombée dessus. Salut! On a des trucs à se dire.
C'est ça. Et il y a beaucoup de monde. J'ai rencontré beaucoup de monde à cette période-là.
Alors, Quartier Fertile, faut peut-être dire en gros ce que c'est, vite fait.
Eh bien.
Alors, Quartier Fertile, c'est un projet qui a été présenté, je ne sais plus si c'est à l'échelle de Quimper-Bretagne occidentale ou Quimper-Ville. Tapez-moi sur les doigts,
je ne sais plus, mais je crois que c'est la ville.
Je crois que c'est la ville qui vise justement à travailler sur. Comment recommencer à produire de la nourriture en milieu urbain? C'est vraiment une question d'agriculture urbaine. Et dans ce cadre-là, il y avait ce projet de ferme urbaine dans un petit bout de Kermoisan, en proximité immédiate avec des bois. Et donc, ils avaient ce projet de ferme urbaine. Ils ont fait un appel pour dire « Et qui s'est candidat là-dessus » Et puis, c'est Alexis qui s'est présenté, qui a été choisi.
Vous, Alexis, vous aviez spécialement envie d'aller en ville ou pas spécialement enfin...
Quand j'ai su que j'allais m'installer, pour moi, il était évident que je devais être proche de l'humain. En fait, donc voilà, je me voyais pas m'installer en campagne profonde. J'avais besoin, de contact humain.
Mais parce qu'en fait, vous faites pousser des légumes, des fruits, enfin pas seulement. D'ailleurs, vous allez nous expliquer ça, mais aussi vous faites beaucoup d'animation, d'interaction, enfin de médiation. En fait, c'est ça.
Alors, la mission première, c'est de produire des légumes, donc des légumes de saison, des petits fruits, des fraises, des framboises, voilà. Et après, dans un second temps, c'est de permettre à des associations de venir sur la ferme et de faire vivre le lieu et de monter du projet.
Et alors Geneviève, il y a une histoire de cuisine de rue, je crois aussi, dans votre rencontre.
Complètement. C'est-à-dire qu'après, il y a eu les 48 heures de l'agriculture urbaine où les petits débrouillards, on est allé accompagner Alexis pour recevoir le public, faire connaître sa ferme. Et puis, c'était il y a 2-3 ans en arrière, en fait, dans un des quartiers dans lequel on intervient sur Quimper, qui s'appelle Kerlagatu. On avait changé les horaires des animations en raison de la canicule.
Et donc,
la canicule. Et donc, ça
devait être en 2022, alors.
C'était 2022, tout à fait, ouais, c'est ça. Et puis, normalement, on finissait nos animations vers 17h avec un petit goûter. Là, on avait décalé de 10h à 13h. Un petit goûter, ça marche moyen. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un petit encas. Et puis, les gens qui fréquentent nos ateliers, notamment les enfants du quartier, se sont très très approprié ce moment-là. On a commencé à acheter un peu de matériel et puis carrément au fur et à mesure on a évolué vers des ateliers de cuisine de rue où on apportait des fruits, des légumes, des graines, des huiles, etc. On cuisinait ensemble. Et donc quand j'ai appris effectivement qu'Alexis s'installait dans le quartier, je dis mais il faut que tout ça, ça vienne de chez toi en fait.
Ouais, c'est ça, tout à fait, en local.
Voilà, donc...
Extra court là.
donc, les petits débrouillards, nous avons l'immense honneur d'avoir eu la facture 0000001 de ta ferme.
Ah ouais, la toute première facture.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait au menu? Enfin, c'était quoi que vous aviez produit là pour l'occasion, Alexis?
Dans les paniers pour les cuisines de rue, je mettais des tomates, des poivrons. Il y avait du piment aussi. J'ai mis pas mal de légumes feuilles et aussi des fleurs comestibles.
Ouais. Voilà. Des capucines, des trucs comme ça. Ouais.
Voilà, il y avait de la bourrache, des fleurs de souci. Voilà, après des jeunes pousses de blette. Donc, j'ai pris vraiment plaisir à livrer ces paniers-là, puisque j'ai pu aussi... Faire découvrir en fait des choses que je commercialisais pas forcément au début et j'ai pu aussi avoir un premier contact avec le public notamment enfants et ados du quartier.
Donc une cuisine végétale, donc on est déjà dans l'adaptation et on va revenir Geneviève sur qu'est-ce que ça veut dire s'adapter au changement climatique, alors peut-être de manière un peu théorique et puis après avec Alexis on verra concrètement comment ça se passe.
Donc en fait, le changement climatique, ça veut dire que le climat se réchauffe. On calcule depuis l'ère pré-industrielle et à l'heure actuelle, en calculant ça, on est en moyenne à plus 1,3 degré. Alors tu vas me dire, si tu changes la température dans la pièce de 1,3 degré, ça ne va pas changer ta vie. Sauf que ça, c'est à l'échelle de la planète tout entière et que ça change complètement le régime de circulation de l'énergie.
Des courants,
notamment des courants marins, ça change le cycle de l'eau, ça change la fréquence des intempéries, ça change leur puissance. Et tout ça fait que le milieu auquel l'humain était somme toute bien adapté est en train de se dérober sous ses pieds. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Il va y avoir des moments où on va avoir beaucoup trop chaud, des périodes de canicule par exemple.
Des sécheresses, comme on a eu en 2022.
Voilà, des sécheresses, des moments où on a beaucoup trop d'eau également.
Oui, parce que plus il fait chaud, plus ça s'évapore à l'échelle de la planète.
Voilà, et donc plus ça s'évapore, plus il pleut.
Plus ça pleut.
Ce qui veut dire des inondations à l'intérieur des terres autour des cours d'eau. Ça veut dire également une modification du trait de côte, l'eau monte. Ça veut dire également énormément de conséquences sur la biodiversité, parce que les espèces sont comme nous, elles sont adaptées. Et quand on leur modifie leurs conditions, elles ne correspondent plus. Vous voyez, les cactus, ça pousse très bien dans le désert, mais si vous mettez ça dans une mangrove, tout de suite, on a comme un problème.
Et c'est parce que le changement est trop rapide, hein, on est d'accord, parce que sinon l'évolution, elle s'est toujours adaptée au changement, mais lentement.
Voilà, c'est-à-dire que quand le changement s'étend sur des centaines de milliers d'années ou des millions d'années, les espèces évoluent, elles migrent. Par contre, quand c'est une question de quelques décennies, les espèces n'ont pas le temps ni de migrer, ni d'évoluer. Et donc, on va se retrouver notamment avec des écosystèmes tout entiers qui meurent ou qui arrêtent de se reproduire, ce qui a de graves conséquences, notamment pour l'agriculture. Nous y arrivons.
Alors, allez, oui.
Parce que j'allais dire, oui. Le sol, en fait, c'est pas juste une matière terre, c'est un écosystème.
Ce sont des micro-organismes, voilà, qu'on ne voit pas. Enfin, aussi, certains, on voit des vers, on voit des petits insectes, des arthropodes, mais bon. Alexis, vous, avant de vous installer, vous êtes installé en tant que maraîcher professionnel depuis peu, mais avant, vous jardiniez déjà depuis longtemps. Qu'est-ce que vous aviez constaté sur le changement climatique, justement ?
Alors, ce que je constate, c'est que les périodes de culture, notamment pour les cultures d'été, sont de plus en plus longues. Il est possible de cultiver, par exemple, la tomate de plus en plus longtemps, de l'avoir de plus en plus longtemps, notamment sous tunnel, par exemple.
Sauf cette année, peut-être, elles étaient un peu tardives. Enfin, je ne sais pas.
Oui, effectivement. Ça, effectivement, ça a mis un peu plus de temps à mûrir, mais ça c'est resté assez tard dans la saison, quoi.
Vous n'en avez plus, là ? C'est fini, quand même ?
Là, c'est fini. Je crois qu'il doit en rester 3 en cuisine et elles sont pour moi, du coup.
Ah ouais, je comprends.
Et j'ai pu faire pousser des radis assez tard dans la saison aussi, là. Parce qu'il a fait plutôt bon... sur la fin de saison.
Le fait qu'il y ait eu beaucoup d'eau, ça, cette année en tout cas
Alors en fait, moi, je me suis installé il n'y a pas très longtemps, et quand mes plants sont arrivés, le système d'irrigation n'était pas encore installé. Donc c'est vrai que moi, ça m'a avantagé en fait, qu'il n'y ait pas un super bon temps en début de saison. Ça m'a permis de passer moins de temps à arroser au tuyau d'arrosage et tout ça. Donc je suis peut-être le seul maraîcher qui peut dire que merci qu'il n'ait pas fait beau temps.
Et sinon, dans votre jardin perso, vous aviez constaté quand les années étaient très, très humides, enfin chez nous en tout cas, c'est quand même le changement climatique, ça sera beaucoup plus de pluie apparemment, quoi.
Eh bien, en fait, faut faire une croix sur les cultures qui ne peuvent pas se faire. Les tomates, c'est compliqué de les avoir. Si, c'est facile de les faire pousser jusqu'à ce qu'on voit le fruit, mais après, pour qu'ils mûrissent, on ne voit pas mûrir. Il faut faire mûrir après en cuisine ou au chaud, quoi. Faut tabler sur les légumes qui correspondent à l'environnement de l'endroit. Ouais.
Et en vous installant à la cascade, vous avez décidé de faire une croix sur certaines espèces ou de cultiver des légumes que vous n'aviez pas testés encore
Oui, et ça du coup c'est en fonction aussi de la clientèle où je suis en fait que j'étudie, je te dis ça. Par exemple les piments, ils ont vachement bien marché. Donc moi quand j'ai acheté la quantité de plants, mon producteur il m'a dit attention Alexis, t'en cultives un peu trop et tout ça. Et ben non, finalement ça a plu, donc l'an prochain je ferai la même quantité. Et j'aimerais cultiver par exemple la christophine que j'avais pas pensé au début.
C'est quoi exactement la christophine ?
C'est un légume qui a le goût entre la pomme de terre et la courge.
C'est un légume racine ?
C'est un légume fruit.
Un fruit.
Qui est grimpant. Donc en gros avec une christophine, donc on peut l'appeler aussi la chayotte, avec une chayotte on peut en avoir des centaines et des centaines, donc voilà. C'est aussi essayer de faire pousser les graines qui ont été reproduites sur place et qui s'adaptent au sol après les années, quoi. Donc en fait c'est acheter les semences aussi qui ont été reproduites par les producteurs locaux, quoi.
Vous n'en êtes pas encore à tester de l'avocat ou enfin des cultures qu'on associe à d'autres latitudes.
Eh bien, en fait, moi, je fais une croix sur aussi tout les avocatiers, par exemple. Mais en fait, pour plusieurs raisons, c'est parce qu'en fait, plus on cultivera des plantes qui ne viennent pas d'ici, et plus on apportera du coup les insectes qui ne viennent pas d'ici, en fait. Donc c'est en fait ça.
C'est les choix à faire.
Ouais. C'est faut choisir. On parle par exemple, on parle énormément des frelons asiatiques.
Oui.
J'ai mon avis là-dessus. Bref, je suis pas, je connais, je connais pas tant que ça, donc voilà. Mais en tout cas, s'ils viennent et qu'ils s'adaptent bien ici, c'est parce qu'on apporte beaucoup de plantes qu'ils apprécient en fait d'ici, quoi.
Alors effectivement, on a de plus en plus d'espèces invasives, c'est comme ça qu'on les appelle, des espèces qui viennent d'ailleurs et puis qui arrivent, et puis c'est la fête en fait, notamment le frelon asiatique.
On dit aussi espèces exotiques envahissantes.
Voilà, tout à fait. À ne pas confondre avec des espèces, pour le coup, envahissante, par exemple la ronce, c'est très envahissant, mais c'est une espèce bien locale qui ne pose pas de problème en termes d'écosystème.
Tout à fait.
Mais les espèces exotiques qui viennent de loin, notamment parce qu'il y a énormément de transports longue distance, et ça aussi c'est des choses qui vont venir avec le changement climatique, notamment avec la multiplication des parasites, des maladies qui auparavant n'étaient pas ici, ou alors qui vont s'aggraver, par exemple quand il y a beaucoup trop d'eau, la tomate bretonne, souvent le mildiou, elle a quand même beaucoup de mal.
Qui est un champignon.
Qui est un champignon bien de chez nous, pour le coup.
On va peut-être pouvoir se mettre à faire du champignon davantage.
Alors, peut-être, qui sait.
Non, mais il y a quand même. Voilà, il y aura forcément des adaptations dans les cultures qu'on va choisir, j'imagine. Enfin, pour l'instant, c'est peut-être trop tôt, mais. Vous allez faire
d'année en année, il y a toujours de l'adaptation et de la on se réadapte, même au niveau des goûts, de ce que les gens aiment et apprécient. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la courge spaghetti.
Mais oui, bien sûr.
Il y a un an ou deux, elle était très demandée. Et là, maintenant, beaucoup moins.
Donc, oui, mais ça, c'est des modes. Ça n'a rien à voir avec le changement climatique.
Mais voilà, ouais. Oui, tout à fait.
Mais en termes d'exigence, si vraiment le changement climatique est, est très, très marqué chez nous, il y a vraiment des trucs qu'on va devoir effectivement abandonner. Mais donc, pour remplacer des maraîchers comme vous, ils vont bien devoir... adopter, entre guillemets, d'autres espèces, non ?
Et notamment des espèces qui seront moins gourmandes en eau, parce qu'il va y avoir des moments où on en aura beaucoup trop, mais surtout des moments où on en aura pas assez. Parce qu'ici, au niveau de ce qu'on appelle la ressource en eau, on a essentiellement des eaux de surface. Donc une fois que la rivière est à sec, eh bien nous aussi.
Et on a eu des sécheresses. C'est vrai, on a eu deux années bien pluvieuses que...
Et on en aura d'autres.
Ça, par exemple, qu'est-ce que fait un maraîcher en cas de sécheresse ?
Alors, justement, en fait, j'y venais, c'est trouver des techniques pour que l'eau reste dans le sol, en fait. Il y a un souci aussi, c'est que là, beaucoup de terre, beaucoup de surface ne font plus éponge à l'eau, en fait. L'eau, elle tombe sur les sols et ça s'en va, donc ça fait un épuisement des sols, mais ça devient aussi... soit un désert, soit du béton, en fait. Donc, moi, la technique que j'ai et que j'aimerais beaucoup développer, c'est d'y mettre un maximum de matière sur les sols, quoi. Donc,
ouais, il faut expliquer pourquoi les sols ne font plus éponge, en fait.
C'est parce qu'il n'y a plus de matière organique dans les sols, en fait. Et que la structure des sols est aussi détruite par le travail des sols trop régulière, quoi.
Donc il n'y a plus de microbes, il n'y a plus de végétaux en décomposition.
Oui.
Du minéral, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis le fait que le sol soit travaillé trop souvent, ça détruit aussi pas mal de lombrics.
Les fameux vers de terre.
Je parle pas par exemple des lombrics qu'on voit quand on creuse et qui pataugent sur place. Non, il y a des lombrics par exemple qui passent leur vie à aller chercher de la nourriture sur la couche végétale qui est le plus au-dessus et qui la ramène au fond. Et du coup, il se fraye un chemin et il vit par ce chemin, quoi. Et ça, ça fait la structure du sol. Et du coup, quand on travaille le sol, ça les entrave. Et si on travaille trop le sol, au final, ils n'y arrivent plus et ça meurt. Donc voilà. Donc, en apportant de la matière, donc comme du foin, par exemple, c'est ça que je conseille, parce que c'est 50% azote, 50% carbone, c'est la meilleure matière pour commencer un potager comme ça, et ben ça favorise une structure du sol qui se met en place. Alors ça peut aller très vite, hein, en même pas un hiver, on peut déjà avoir une bonne structure du sol.
On étale juste
en place.
Son
alors,
foin.
Alors le foin, on le met dans l'idéal, on le met en début d'hiver. Donc pas hésiter à mettre une bonne grosse couche, voilà, et ne pas y toucher en fait, et remettre une couche au printemps. Afin qu'il n'y ait pas d'enherbement et tout ça, et puis vous verrez, vous creusez, enfin vous retirez légèrement du foin et ça grouille quoi.
La terre s'est formée quoi.
Ouais, ouais. Bah, moi je sais que j'ai mis du foin en début de saison au printemps dans mes serres, et bah il y a une biodiversité qui est arrivée en 6 mois, mais il y a une quantité de d'insectes différents qui s'est mis en place quoi. Donc ça peut aussi aller très très vite la
C'est là que les petits débrouillards arrivent avec leur microscope. Quoi.
Et là, les petits débrouillards arrivent avec leur microscope et aussi avec leurs livres et leurs ateliers pour dire que ça va fonctionner sur un sol qui est encore en état à peu près.
Oui, c'est ça. Pas qu'il soit mort.
Parce qu'un sol, pour se former, ça met entre 200 et 1000 ans.
Un sol profond, quoi.
Un sol profond, un endroit où il va vraiment y avoir une installation de communautés qui vont pouvoir fonctionner. Alors, il y a des moments, elles vont peut-être s'appauvrir, mais il suffit de me remettre une botte de paille, et l'un dans l'autre, ça repart à peu près. Si vous traitez beaucoup avec des pesticides, des herbicides ou des engrais, vous allez réduire, évidemment, toute cette communauté du sol. S'il y a trop de sécheresse, elle va se réduire d'elle-même. S'il y a trop d'eau, elle va se réduire d'elle-même, etc. Donc, j'ai envie de dire que nos sols sont précieux.
Et c'est pour ça qu'une friche, par exemple, je ne sais pas, industrielle ou en ville, n'est pas forcément... on ne peut pas la retravailler tout de suite aussi, j'imagine, quoi.
Ça dépend. Il y a beaucoup d'endroits qui ont été très occupés et qui ensuite sont laissés à l'abandon. Et là, on va voir beaucoup de plantes, comme du rumex, par exemple. Ce sont des plantes, ça s'appelle des plantes pionnières, qui vont venir s'installer là parce que vraiment, il n'y a rien d'autre qui peut pousser. Ça n'empêche pas que c'est très très intéressant ces végétaux-là parce qu'ils préparent le terrain pour que d'autres espèces puissent venir s'installer, mais c'est long parce que là, effectivement, il y a un gros travail de reconstruction.
Juste un petit mot, Alexis, donc pour ne pas trop travailler vos sols, vous faites appel notamment à l'attraction animale, c'est ça
Alors, dans le rêve, j'ai effectivement adopté 2 ânesses.
Elles sont là.
Donc,
elles travaillent pas encore.
Je les brosse, je fais leurs soins. Et il y en a une des deux qui est ingérable. Et en fait, les ânes fonctionnent en binôme. Voilà.
Pas gagné
donc,
encore. Quoi.
J'en ai une. Donc, il y en a une qui est ingérable. Et dès que je sors le licol, c'est pas possible. Elle s'en va. Et il y a l'autre qui est très 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 facile, une vraie crème. Mais le problème, c'est que je peux pas les séparer. J'ai essayé de le faire une fois, et comme ces deux sœurs qui vivent ensemble depuis le début de leur vie, et ben en gros, l'ânesse qui est ingérable est venue casser la clôture pour me rejoindre avec avec l'autre. Du coup, je me suis retrouvé au milieu de tout avec. Donc voilà,
Non, c'est pas grave, c'est pas pour tout. C'est une question comme ça. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc on va juste terminer avec la formation que vous voulez mettre en place pour les particuliers cette fois. Hein, il ne s'agit pas de devenir maraîcher pro. Qu'est-ce que vous allez proposer?
Alors, donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire au printemps. Là, pour l'instant, on pense que ce serait les 2 et 9 mai. L'objectif étant de proposer à des adultes, pour le coup, de venir sur la ferme où on va d'une part former les gens aux questions d'adaptation au changement climatique et puis d'autre part mettre en œuvre des gestes à la ferme pour pouvoir apprendre à faire, pointer d'un côté en se disant « bon ben là il y a un problème, il faut réussir à trouver des solutions » et puis d'autre part pointer en se disant « bon ben là ouais ça fonctionne, c'est efficace et c'est adapté » et puis l'objectif étant évidemment aussi de permettre aux personnes de pratiquer, c'est-à-dire de pas juste rentrer chez eux avec « je dois pailler » mais de l'avoir fait pour de vrai, de manière à ce que ça soit réellement fait ensuite à domicile, ouais.
Oui. Donc Alexis, on mettra du foin, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous proposerez d'autre, par exemple, comme technique?
Eh bien, déjà, dans un premier temps, c'est observer où j'en suis quand les personnes vont venir à la ferme.
Début mai.
Voilà. Et après, effectivement, c'est qu'ils puissent faire des choses comme, par exemple, des semis, du paillage, du désherbage éventuellement. Et pourquoi pas, par exemple, brosser les ânes, justement. Et comme ça, ça va leur permettre que quand ils partiront et quand ils reviendront, ils verront l'évolution un peu de eux, ce qu'ils ont fait. Et ça va faire qu'ils s'approprient aussi des lieux, quoi.
Il y a également le fait où planter quoi pour en tirer le meilleur parti. Certaines cultures qui seront intéressantes sous abri, par exemple, peut-être qu'elles ne seront pas très rentables, mais l'année d'une canicule, évidemment, elles seront particulièrement adaptées. Il y a la question de la pollinisation, parce que tu travailles aussi beaucoup là-dessus.
Il y a des abeilles aussi à la Cascade.
Des abeilles. Mm-hmm. On pourra discuter aussi beaucoup abeilles sauvages, parce qu'on parle beaucoup des abeilles domestiques, mais il n'y a pas que ça.
Et non.
C'est ça.
Bon, et bien de toute façon, l'émission va continuer, puisque c'est une série, les petits ébrouillards. Oui, vite.
Juste rapidement, nous avons une porte ouverte demain au 53 à Quimper, où on va proposer des ateliers, une exposition, des stands, etc. Le tout gratuit au 53. 53 Impasse de l'Odé.
C'est l'ancienne maison des associations.
C'est l'ancienne maison des associations. Et donc, s'il y a des gens qui ont envie de parler adaptation au changement climatique ici et maintenant, n'hésitez pas à passer me voir.
Merci beaucoup aux petits brouillards et merci Alexis à la ferme de la Cascade. À bientôt. Au revoir.
Ciao.